Orange Monnaie, transfert d'argent et paiement de factures, simple, rapide, économique, vous propose Appel sur l'actualité.
Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Eh oui, appelez-nous, exprimez-vous, comme tous les jours, RFI vous donne la parole. Bienvenue si vous nous rejoignez. Dans un instant, ce sont vos questions à la rédaction d'RFI. Vous connaissez ce rendez-vous privilégié avec tous nos journalistes, nos experts ici à la rédaction, nos envoyés spéciaux, nos correspondants. Il vous manque des clés pour comprendre, pour mieux décrypter l'actualité, mieux comprendre tous les sujets que nous traitons dans nos différents journaux. Eh bien, vous nous rejoignez, vous nous appelez ici à Paris, 33 9 693 693 70. 09 693 693 70 si vous nous contactez de France, et vous pouvez également nous envoyer vos questions via les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, même par courrier électronique. Et oui, le courrier électronique existe encore, même si vous êtes de moins en moins nombreux à l'utiliser. Notre adresse appel@actu.rfi.fr, sans oublier évidemment de nous indiquer un numéro de téléphone. Dans 30 minutes, notre débat du jour portera sur les conditions de vie des fonctionnaires africains, avec cette excellente nouvelle, j'ai envie de dire, pour la fonction publique en Côte d'Ivoire, les 130 000 fonctionnaires verront leur salaire augmenter. Le gouvernement vient d'adopter une enveloppe de 170 milliards de francs CFA, 260 millions d'euros dans le budget 2015 pour débloquer tous les salaires. Mais attention, qui dit amélioration du pouvoir d'achat dit une probable hausse des prix à la consommation. C'est en tout cas la crainte exprimée sur notre antenne par les syndicalistes. Alors partagez-vous cette inquiétude. Dites-nous quelles sont les conditions de vie des fonctionnaires dans votre pays. J'ai vu par exemple, en préparant cette émission, que cet été, le président camerounais avait lui aussi instauré une hausse de 5% du salaire des agents publics. Eh bien, on en parle tout à l'heure, 33 9 693 693 70. Plusieurs questions ce matin, après la comparution hier du président kényan devant la Cour pénale internationale. Bonjour Dido.
Bonjour Juan et bonjour à tous.
Vous nous appelez du nord-est de la République démocratique du Congo, vous êtes à Iziro, on vous écoute.
Oui, Juan. L'image sera date. Hier, le président kényan Uhuru Kenyatta comparaissait devant la CPI. La question est celle-ci. Quelles seraient les conséquences sur son mandat de chef d'État si, à l'issue de l'audience d'hier, il devait comparaître à nouveau devant la CPI dans les jours à venir?
Ah, bonne question, effectivement, et vous n'êtes pas le seul à vous la poser. Bonjour Florence Maurice.
Bonjour à tous.
Merci d'être avec nous, vous suivez ce dossier. Uhuru Kenyatta, rappelons-le, accusé de crimes contre l'humanité pour son rôle présumé pendant les violences post-électorales entre 2007-2008, plus d'un millier de morts à l'époque. Premier chef d'État dans le box des accusés de la Cour pénale internationale. Faut quand même rappeler déjà, parce que j'ai l'impression, en lisant un peu les différentes questions qui nous arrivent au standard, il y a une sorte de confusion. Le procès n'a toujours pas commencé.
Mais non, le procès n'est pas encore ouvert. Il a été plusieurs fois programmé, plusieurs fois reporté. C'est d'ailleurs tout l'enjeu des audiences qui se sont tenues à la haie, excusez-moi, mercredi et jeudi. Les charges ont bien été confirmées en 2012 déjà, mais depuis, l'enquête du procureur patine. Le gouvernement du Kenya est accusé de faire obstruction. La procureure a reconnu donc qu'elle n'avait pas assez de preuves pour aller au procès sans risquer un acquittement. Elle demande un ajournement. Du coup, de son côté, la défense demande un abandon des poursuites, et c'est cette question que les juges vont devoir trancher.
Voilà, et donc il faut patienter encore pour connaître le verdict final. Donc on le comprend, pour l'instant, rien n'indique que le procès s'ouvrira un jour. On va faire un peu de fiction. Si jamais il doit s'ouvrir, quelles peuvent être les conséquences?
Alors du point de vue de la CPI, Juan, le fait d'être un chef d'État en exercice, si le procès s'ouvrait un jour, n'est pas un obstacle à sa tenue, et donc il n'y aurait aucune conséquence particulière. Se pose ensuite la question du droit kényan. De ce point de vue-là, a priori, pas de conséquences immédiates non plus. Il y a même en quelque sorte un précédent, puisque William Ruto, qui n'est pas président du Kenya, mais tout de même vice-président, est lui-même poursuivi par la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité dans la même affaire. Et son procès s'est ouvert, lui, il y a un peu plus d'un an. Concernant M. Ruto, la CPI a accepté quelques aménagements, en fait, pour lui permettre d'assurer ses fonctions. En clair, il a la possibilité, la plupart du temps, de se faire représenter par un avocat à l'audience, à l'exception de quelques audiences jugées crucial, l'idée étant de lui permettre de remplir son mandat tout en étant poursuivi, puisque bien entendu, tant qu'il n'est pas condamné, l'accusé reste présumé innocent.
Évidemment. En cas de procès du président kényan, j'imagine qu'il y aura forcément un impact politique auprès de l'opinion publique.
Et voilà, c'est l'autre aspect, l'image d'un chef d'État dans le box des accusés, pas très flatteuse. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'Uhuru Kenyatta a pris soin de dire qu'il venait à La Haye à titre personnel et de nommer William Ruto en intérim.
C'est-à-dire qu'il a confié ses pouvoirs constitutionnels à son vice-président.
Exactement. Alors certains y ont vu une manœuvre un peu technique destinée uniquement à sauver la face, mais il faut bien dire que cela a été très bien accueilli par l'opinion publique au Kenya, une opinion publique qui est globalement très hostile à la Cour pénale internationale, Juan.
Autre question au standard, toujours sur ce dossier Kenyatta. Saturnin, bonjour.
Oui, bonjour, Juan, bonjour à tous.
Bienvenue, on vous écoute, vous êtes à Semepoji, c'est à 20 km de Cotonou, au Bénin.
Oui.
On vous écoute.
Au sujet de la comparution du président Kenyatta devant la CPI.
Oui.
Je voulais savoir pourquoi la CPI attend-elle pas la fin du mandat du président Kenyatta pour le convoquer comme l'a demandé l'Union africaine.
Alors, le réseau est très mauvais. Pourquoi la CPI n'a-t-elle pas attendu la fin du mandat du président Kenyatta pour le convoquer? Voilà une bonne question.
Eh bien, tout simplement parce que c'est contraire aux principes fondamentaux de la justice internationale. Personne n'est au-dessus des lois. Aucune immunité ne peut être accordée en raison d'une fonction officielle, quelle qu'elle soit, pour les crimes les plus graves. C'est ce que dit l'article 27 du statut de Rome. C'est dans l'ADN de la CPI et de la justice internationale de manière générale. Le tribunal spécial pour l'exclusion Yougoslavie, c'était le cas aussi pour le tribunal sur le Sierra Leone, et du point de vue des défenseurs des droits de l'homme, c'est crucial car sans cela, des personnalités telles que Slobodan Milosevic ou l'ancien président Sierra Leone, Charles Taylor, n'auraient pas pu être poursuivis. Charles Taylor, rappelons-le, qui a été en fonction au moment où un mandat d'arrêt a été émis contre lui.
Donc personne n'est au-dessus de la loi, la CPI ne prévoit aucune exception, Florence?
Alors, il y a un article du statut de Rome, l'article 16, qui prévoit que pour les cas touchant à la préservation de la sécurité et de la paix dans le monde, le Conseil de sécurité peut demander à la CPI de suspendre une affaire pendant un délai de 12 mois renouvelable. C'est de cela que s'était emparée l'Union africaine l'an dernier à propos de l'affaire Kenyan. L'argument principal était utilisé, c'était que de dire qu'un procès allait déstabiliser à nouveau le Kenya. Mais le Conseil de sécurité n'a pas répondu favorablement à cette demande. En fait, cet article, Juan, n'a tout simplement jamais été utilisé.
Oui, on rappelle que l'Union africaine a également mis en avant cet article pour essayer de mettre fin, en tout cas de mettre entre parenthèse, le mandat d'arrêt qui vise depuis plusieurs années Omar El-Béchir, le président soudanais. En deux mots, Florence, c'est important de le rappeler, c'est que Uhuru Kenyatta n'était pas chef d'État quand les poursuites ont été engagées contre lui.
Et oui, c'est important pour comprendre la démarche du Kenya, de voir comment ont évolué en fait les relations. Après les violences électorales de 2007-2008, un accord avait été signé au Kenya qui prévoyait la mise en place d'un tribunal au Kenya pour juger ces violences et qui disait qu'en cas d'échec, il faudrait aller à la CPI. En 2009, le Parlement a échoué à mettre en place un tribunal et c'est à ce moment-là que la CPI s'est saisie de l'affaire. À l'époque, le slogan « Don't be vague, go to the Hague » est repris en cœur, notamment par Uhuru Kenyatta. Et puis, au moment où les deux hommes ont vu les charges confirmées contre eux, le discours a changé. Ils se sont alliés pour la campagne électorale et c'est alors qu'a commencé une véritable campagne de diabolisation de la Cour pénale internationale. Juste un mot peut-être pour finir, dire que les organisations de défense des droits de l'homme estiment que retirer les charges contre Uhuru Kenyatta en attendant la fin du procès, ce serait envoyer un mauvais signal, ce serait dire, inciter en quelque sorte les chefs d'État à briguer des mandats, se présenter à des élections pour venir au pouvoir.
À modifier les constitutions pour se maintenir au pouvoir.
Et pour, et les modifier pour s'y maintenir avec l'espoir que, en attendant, ils ne pourraient pas être poursuivis par la CPI.
Merci beaucoup Florence Maurice pour cet éclairage. Merci d'être venue répondre à quelques-unes de ces questions sur Uhuru Kenyatta et on en parlera à mon avis certainement demain dans la Libre Antenne. La Libre Antenne, vous commenterez l'actualité de votre choix comme tous les vendredis. Bonjour Véronique Guémard.
Bonjour.
Merci de nous rejoindre Véronique, journaliste au service international d'RFI. On a des questions concernant la sécurité de Barack Obama. Bonjour Lucien.
Bonjour Juan.
Vous nous appelez...
Bonjour RFI, Mondoukou.
Ah, Mondoukou, c'est pas loin de Grand Bassam, en Côte d'Ivoire.
Tout à fait.
Voilà, on vous écoute.
Ok. Le 1er octobre dernier, la chef de la sécurité de la Maison Blanche a démissionné suite à plusieurs incidents qui ont montré des failles dans la sécurité du président Obama. Alors, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Et comment peut-on expliquer le dysfonctionnement sécuritaire du président Obama?
Ah, Véronique, une série de scandales, c'est peu de le dire, hein, qui ont touché cette agence chargée de protéger Barack Obama et sa famille. Et c'est vrai que quand on regarde la liste des incidents, ça fait peur. On peut s'interroger véritablement et se demander si Barack Obama est véritablement en sécurité. Hein.
Effectivement, alors la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, en quelque sorte, hein, c'est le 19 septembre dernier, un homme, Omar Gonzalez, vétéran de la guerre d'Irak, sans domicile, qui a sauté par-dessus la grille, un canif à la main, jusqu'à la salle de cérémonie de la Maison Blanche. Obama et sa femme étaient absents, mais les services de sécurité ont déclaré qu'il avait été arrêté bien avant, mais en réalité, il a réussi à passer 5 points de contrôle sans être inquiété. Et ce n'était pas donc le premier incident de sécurité autour du président. On a appris que lors d'une visite du président à Atlanta le 16 septembre, donc 3 jours avant, un vigile armé avait réussi à prendre le même ascenseur qu'Obama, ce qui est totalement interdit par le protocole.
D'autant qu'il était armé, je crois qu'il avait même un casier judiciaire bien rempli.
Pour coups et blessures, il avait été bon. 11 incidents ont été répertoriés. Alors, on va en rappeler certains qui sont restés un petit peu dans les mémoires. Peut-être
les
en 2011, déjà, des tirs contre la résidence d'Obama à la Maison-Blanche ont été passés sous silence. Les gardes de sécurité ont mis 4 jours pour déceler des impacts de balles de la façade. Certains l'avaient signalé, mais la hiérarchie n'avait pas voulu les entendre. Lors d'un déplacement en Colombie, une douzaine d'agents chargés de la sécurité d'Obama avaient été surpris avec des prostituées. Aux Pays-Bas, 2 gardes de sécurité avaient été retrouvés en état d'ébriété la veille de l'arrivée du président américain. Et c'est après ces incidents, justement, que Julia Persson avait été nommée il y a un an et demi pour diriger l'agence et faire le ménage, en quelque sorte.
Julia Persson, c'est la responsable de ce Secret Service
Du Secret Service. C'est une sorte de service secret de l'intérieur, des États-Unis. On peut aussi rajouter l'épisode du faux interprète en langue des signes, vous en souvenez, schizophrène, qui s'est retrouvé aux côtés d'Obama lors des obsèques de Nelson Mandela en Afrique du Sud en décembre. Alors, tous ces incidents porte évidemment un coup à la réputation du système de sécurité qu'on croyait infaillible pour la protection du président, qui est considéré quand même comme le plus puissant du monde. Donc c'est la crise la plus importante depuis les tirs contre le président américain Ronald Reagan, à l'époque, il y a 30 ans au Hilton de Washington.
Alors comment expliquer de tels dysfonctionnements, nous demande Lucien.
Alors certains estiment en fait que ces dysfonctionnements se sont accentués depuis que le service secret intérieur, qui était quasiment indépendant, ont été rattachés au département de la sécurité intérieure sous le gouvernement de George W. Bush au nom de la lutte antiterroriste. Alors cela aurait transformé l'agence en un rouage bureaucratique de plus, affaibli les critères de recrutement, c'est une des analyses qui ressort. Il y aurait aussi une disparité entre les agents de sécurité et les officiers. Par exemple, un ancien officier témoigne, il dit que le travail à la Maison Blanche est souvent très statique, il faut rester debout de longues heures, c'est pas très attractif, et souvent ce sont de très jeunes agents, tout juste sortis de l'école, finalement, avec moins d'expérience de terrain qui s'y retrouvent affectés. Autre élément, les écoles de formation justement de ces agents, n'arrivent pas à remplir leurs quotas depuis quelques années. Et du coup, les effectifs sont réduits. Ces agents doivent effectuer plus d'heures de travail, moins d'entraînement. Certains qui étaient affectés à la formation ou à des tâches administratives finalement se retrouvent à la sécurité. Alors ça, c'est la source, c'est justement le rapport du gouvernement l'an dernier. Et puis, les salaires qui étaient très bas ont quand même été revus à la hausse en 2010. Mais Julia Persson dit non, les incidents de sécurité n'ont rien à voir avec tout cela, c'est uniquement une opération, c'est très très ponctuel. Bon, alors ce qui est étonnant quand même, c'est que dès son arrivée à ce poste, elle avait réduit drastiquement les effectifs de sécurité, y compris les officiers en uniforme qui gardent la Maison Blanche. Elle avait aussi demandé à supprimer certaines barrières, à rouvrir certaines rues derrière la Maison Blanche pour la rendre plus attractive, moins bunker, moins forteresse, en quelque sorte, mais bien loin des conditions considérations de sécurité. Alors le problème de fond n'est pas réglé. Une commission est en train d'examiner toutes ces failles.
En tout cas, ces failles inacceptables. Julia Persson les a reconnues, elle assume toutes les responsabilités. Lucien, vous aviez une autre question ?
Tout à fait, Juan.
On vous écoute.
Quelles sont les mesures prises pour que de tels incidents ne se reproduisent plus ? Merci, Juan.
Alors Véronique.
Oui, pour l'instant, on sait que la sécurité a été renforcée aux abords de la Maison Blanche. Un mur pourrait être érigé à la place de la grille qui a été franchie par l'intrus. Un périmètre de sécurité pourrait être agrandi autour de la résidence du président de la Maison Blanche. Donc, et le nombre d'agents de sécurité devrait être accru, mais on n'en sait pas beaucoup plus. Hein. Sans doute aussi pour des questions de sécurité. En tout cas, républicains et démocrates sont d'accord sur ce point. En tout cas, on ne s'amuse pas avec la sécurité du président. Il faut mettre les moyens qu'il faut et faire en sorte que le service secret intérieur retrouve toute sa crédibilité.
Merci Véronique Guémard. Bonne journée Lucien, merci de nous écouter à Mondoukou, près de Grand Bassam, en Côte d'Ivoire, où il est 8h25. Mamadou est avec nous, il nous appelle de Dakar, bonjour.
Bonjour Juan.
On vous écoute, soyez le bienvenu. Vous avez des questions concernant Al-Qaïda et l'organisation État islamique.
Oui. Bon, merci de m'avoir donné l'occasion de participer à cette émission si importante.
Merci.
D'abord, je voudrais savoir, est-ce que le développement rapide de l'État islamique affaiblit le mouvement Al-Qaïda?
Alors,
ensuite, existe-t-il des relations entre les dirigeants des deux mouvements, ainsi qu'entre les combattants sur le terrain?
Bonne question, effectivement. Pour être honnête, je me la suis moi-même posée. Bonjour David Thompson.
Bonjour.
Bienvenue dans ce studio. Al-Qaïda, on le voit bien, est clairement un peu dépassé, concurrencé par l'organisation État islamique, à tel point qu'on avait un peu oublié Al-Qaïda ces dernières semaines. Et comment expliquer ce développement aussi rapide de l'organisation Daesh?
En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce qui se joue aujourd'hui au niveau du djihad mondial, c'est ni plus ni moins que la succession d'Oussama Ben Laden. Dans l'organigramme d'Al-Qaïda central, l'organisation fondée par Ben Laden, c'est aujourd'hui son successeur, l'Égyptien Ayman al-Zawahiri, qui est numéro un. Mais le leadership d'Ayman al-Zawahiri, aujourd'hui, il est contesté par une nouvelle génération du djihad qui ne se reconnaît pas dans ce théoricien un petit peu austère, qui est accusé de ne pas être sur le terrain, sur le champ de bataille, et qui se reconnaît beaucoup plus volontiers dans la personnalité extrêmement charismatique, au contraire, d'Abou Bakr al-Baghdadi, qui lui est sur le front, a été blessé, qui construit quelque chose de très concret, un État autoproclamé, mais il faut bien dire qu'il contrôle un grand territoire, tout ce que Al-Qaïda n'a pas fait. Et donc c'est vrai que cette nouvelle génération est là.
Daesh a effectivement un territoire, a une armée, a des financements colossaux. Oui. Ce que n'a plus aujourd'hui, par exemple, Al-Qaïda.
Ce que n'a plus Al-Qaïda. Al-Qaïda a beaucoup souffert aujourd'hui des frappes de drones américains en zone pakistanaise. Il faut bien dire, oui, Al-Qaïda marque un vrai reflux en termes de puissance, mais symboliquement, ça reste quelque chose aujourd'hui de très important. La question aujourd'hui, c'est qui va supplanter l'autre dans cette querelle du leadership mondial. Est-ce que c'est l'État islamique qui va devenir l'organisation numéro un, ou alors est-ce que Al-Qaïda va résister?
Si Al-Qaïda résiste, ça signifie que ce mouvement pour revenir sur le devant de la scène va inévitablement, je ne sais pas, commettre de nouveaux attentats
Certainement. Juste après la proclamation du califat le 29 juin, l'État islamique a demandé à toutes les franchises officielles d'Al-Qaïda de lui prêter allégeance, de se délier de l'allégeance d'Al-Qaïda. Pour le moment, aucune ne l'a fait. Donc, Al-Qaïda résiste. Les franchises d'Al-Qaïda résistent. Mais on a vu en Algérie, avec cet été, la prestation d'allégeance de ce nouveau groupe, Jun al-Rilafa, les soldats du califat, qu'il y a des débats très durs en interne entre chaque franchise. Et la défection de cette unité kabyle d'ACMI est un coup très dur porté à Al-Qaïda et à ACMI. Oui. Donc effectivement, toute recrue qui quitte ce giron est un affaiblissement de plus pour Al-Qaïda.
Alors il y a un affrontement peut-être idéologique, mais un affrontement réel sur le terrain, puisque en Syrie il y a le front Al-Nusra qui fait allégeance à Al-Qaïda, c'est donc une branche d'Al-Qaïda. Et puis de l'autre côté, en face, il y a les fameux djihadistes de l'organisation État islamique.
Tout commence au printemps 2013 avec une querelle d'émirs entre un duel de communiqués audio qui sont diffusés sur Internet, qui sont publics, que tout le monde connaît. Abou Bakr al-Baghdadi, le chef de l'État islamique, annonce que Jabhat al-Nusra est ni plus ni moins qu'une émanation de son organisation, que ce sont ses envoyés en Syrie. À cela, le chef de Jabhat al-Nusra répond non, nous ne sommes pas sous vos ordres, nous sommes autonomes. Et il demande l'arbitrage d'Ayman al-Zawahiri. Ayman al-Zawahiri tranche et il fait de Jabhat al-Nusra la branche syrienne d'Al-Qaïda. Il demande à Abou Bakr al-Baghdadi de rester en Irak. tout par-delà. Et là, à partir de là, on est dans une querelle d'émirs, et ensuite, ça prend une tournure militaire qui a tourné à la guerre d'épuration entre les deux organisations sur le sol syrien.
En un mot, puisqu'on a 10 secondes, on peut imaginer une fusion entre les deux ou pas ?
Alors, à la faveur de la coalition internationale et des frappes, des rapprochements ont eu lieu entre les deux organisations, et des communiqués de soutien se multiplient, donc c'est une possibilité.
Merci David Thompson, c'était passionnant. Reste avec nous dans un instant, le point complet sur l'actualité. Et